l'actu des oubliés. Saison 4. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Pour le 18e et dernier épisode de notre saison 4, nous tentons de dessiner les perspectives du mouvement de solidarité internationale pour la Palestine, alors qu'à Gaza, l'armée israélienne impose une conquête totale et que l'ONU parle désormais de volonté d'extermination. Le mouvement solidaire se poursuit malgré la censure de masse qui étouffe les médias occidentaux. Mais celle-ci ne parvient plus à occulter les massacres commis par l'armée israélienne. Les images qui franchissent le blocus sont prises par des femmes et des hommes qui fréquentent les camps de réfugiés au péril de leur vie. À l'image de Bissan Oda.
Si la mort a une odeur, je la sens en ce moment même. Juste derrière moi, un bombardement a eu lieu la nuit dernière dans un camp de réfugiés d'Al-Mawasi. Autour de moi, ce sont des tentes, et les personnes vivent dans ces tentes parce qu'on leur a dit que cet endroit était sûr. La nuit dernière, 5 ou 6 roquettes ont été larguées sur ce camp, provoquant la mort de 40 à 50 personnes. Et les gens sont terrorisés. Et la question qu'ils posent, c'est où aller ? Où ces gens sont supposés aller si tout Rafah, Khan Younis et la bande de Gaza sont bombardés ?
Where should people go ?
Où ces gens sont supposés aller ? Les zones humanitaires sont un mensonge.
Depuis le début de l'offensive, on estime qu'environ 150 journalistes ont été assassinés par l'armée israélienne, la plupart délibérément. Un nombre probablement sous-estimé, qui démontre pourtant la crainte que le gouvernement Netanyahou a de voir ces crimes documentés et diffusés à travers le monde. L'interdiction pour tout journaliste étranger de pénétrer dans la bande de Gaza dit la même chose. Dans Mediapart, Agai Matar, directeur du média israélo-palestinien Plus 972, explique « Israël a peur du journalisme. Empêcher les journalistes étrangers d'entrer sert à fausser l'opinion publique mondiale. Avec cet argument, ne croyez rien de ce que vous entendez de la part des Palestiniens. Leurs journalistes ne sont pas fiables. » Israël ne pourrait pas parler ainsi des journalistes internationaux. Personne ne pourrait ignorer leur reportage. L'indignation internationale serait complètement différente si autant de journalistes étrangers travaillant dans des médias connus et respectés avaient été tués. Il faut le dénoncer fermement. Israël a tué un nombre sans précédent de journalistes palestiniens. Rouwaida Amer, photoreporter gazaoui, raconte encore aux médias Atmos que les gens de Gaza sont leurs propres journalistes, en transmettant au monde des images de ce qui se passe dans cette grande prison que l'occupation a créée. Plus loin, le photographe Abed Zagout analyse.
La photo et les images sont considérées comme la mémoire des nations. Elles capturent les conflits, les événements et les crimes contre le peuple palestinien. Il est crucial que les Palestiniens eux-mêmes documentent et narrent ces crimes comme des preuves, qui pourront être utilisées par la suite par la Cour pénale internationale.
Le travail de ces journalistes de terrain est en effet l'un des facteurs majeurs de la montée en puissance du mouvement solidaire international. Si celui-ci se déploie à l'échelle de la planète, c'est en particulier grâce au réseau qui colporte non seulement les images de Gaza et de Cisjordanie, mais également celles des occupations et des manifestations aux quatre coins du monde. Le lien qui en résulte pour la lutte est essentiel, à la fois pour le partage des modes d'action, pour insuffler la détermination et pour faire monter la pression. Mardi 11 juin, Le Monde regardait ainsi la police évacuer les universités d'Helsinki en Finlande, de Séville en Espagne ou de Varsovie en Pologne. Et c'est aussi sur les réseaux que les étudiantes et étudiants de Leeds célébraient l'occupation des bâtiments. C'est aussi ce qui pousse le mouvement à se perpétuer dans le temps. Voilà 2 mois qu'il a commencé. Les campements détruits par la police continuent à se remonter en permanence et les modes d'action évoluent. À travers les occupations, un outil s'est répandu rapidement. Signal est la possibilité de créer des groupes de discussion anonymes jusqu'à 1000 personnes, relayés si besoin par des groupes miroirs pour intégrer plus de gens. Crime Think, qui consacre un article au groupe constitué à l'occupation d'Austin, démontre ainsi à quel point Signal est un outil déterminant, en particulier dans la perspective de s'extraire des postures hiérarchiques ou des injonctions posées par les organisations qui peuvent se considérer à la tête du mouvement. Dans un groupe Signal, de fait, chacun, chacune peut relayer ou s'emparer d'une proposition sans que celle-ci ne passe par un prisme préalable. Margara Millán, anthropologue et sociologue mexicaine, membre du réseau universitaire avec la Palestine et contre le génocide, explique à Desinformémonos.
Les peuples du monde sont très actifs dans le refus du génocide. Les marches sont massives, mais il y a aussi beaucoup d'actions directes dans des pays clés, notamment dans les pays qui sont les principaux responsables de la continuité du génocide. La protestation, non seulement ne s'arrête pas, mais elle prend sans cesse de l'ampleur.
Alors que les partiels commencent un peu partout dans l'hémisphère nord, la fronde des universités ne faiblit pas. Les manifestations sont toujours aussi massives, comme on a pu le voir la semaine dernière encore à Melbourne, à Washington, à Manchester ou à Karachi au Pakistan, où la foule chantait « Je suis pakistanaise, je me lève avec la Palestine ». Au Maroc, les marches continuent à mettre la pression sur la monarchie contre la normalisation des relations avec Israël. Le roi du Maroc a en effet accepté de rétablir les relations diplomatiques en échange d'une aide militaire dans la guerre coloniale qui l'oppose au Front Polisario, groupe indépendantiste du Sahara occidental. À Casablanca, Tanger, Tétouan ou Agadir, des milliers de personnes défilent encore chaque semaine. L'université de Los Angeles compte désormais 5 campements, dont celui de Dixon Plaza qui a été remonté pour la troisième fois lundi dernier. À Columbia, on ne compte plus le nombre de fois où les campements sont réinstallés, 2 ou 3 jours après chaque évacuation. Le mouvement de solidarité dans sa seconde phase, c'est-à-dire depuis le début de l'occupation des campus, a déjà obtenu de nombreuses victoires. Nous avons évoqué Lausanne ou Dublin, mais dès la mi-mai, l'université de Grenade en Andalousie renonce elle aussi à tout lien avec l'État et les universités israéliennes. Au Trinity College de Cambridge, au Royaume-Uni, l'administration a renoncé aux investissements qu'elle avait dans plusieurs entreprises d'armement qui font leur beurre sur le génocide, notamment Elbit Systems, qui produit 85% des drones et des équipements utilisés par l'armée israélienne. Aux États-Unis, l'organisation par l'administration universitaire de référendum sur le désinvestissement vient saluer les initiatives de blocage et d'encampment. Ainsi, dans l'université de Barnard à New York, plus de 90% du corps étudiant a voté oui à la question « Voulez-vous que la fac se désinvestisse de toute action, de tous les fonds et dotations, et renonce à investir davantage dans des entreprises qui tirent profit de l'économie israélienne ou qui s'y engagent ?» Non loin de là, l'université Brown a voté l'arrêt de toutes les relations avec Israël, et celle de Riverside a abandonné un programme d'échange et son partenariat avec le Strauss Group, impliqué dans l'armement qui opère à Gaza. Comme le dit Claire Fester dans Marx 21.
Les campements ont déjà un énorme impact en pointant l'attention nationale et internationale sur la brutalité de l'occupation israélienne. Plus d'une douzaine d'universités ont été forcées de s'asseoir à la table des négociations. Les concessions varient et c'est toujours le désinvestissement qui est le plus difficile à obtenir. Dans certains accords, nous avons fait l'erreur de promettre de ne pas réinstaller de campement. Il est important que nous soyons prêts à redémarrer à n'importe quel moment ou à briser ce genre d'accord.
Or, si ces victoires sont localement décisives et importantes, et qu'elles pèseront certes à leur échelle, leur impact réel sur l'offensive israélienne est très difficile à prédire. Quoi qu'il en soit, les protestataires savent que si l'occupation est un préalable nécessaire, elle n'est pas une fin en soi. Dans un nombre croissant d'universités se déploie ainsi l'envie de monter d'un cran, de créer une escalade afin que les directions et les gouvernements entendent les revendications. Faire des campements une base, un cœur à partir duquel peuvent se développer des initiatives à destination de l'ensemble de la société. C'est ainsi que les manifestations elles-mêmes tentent désormais à déborder du cadre dans lequel elles sont organisées. Consécutives au massacre du camp de réfugiés de Barakzat, les manifs sauvages se multiplient, en France sur les périphes de Paris ou Lyon, au Mexique ou encore en Égypte. Les tentes gagnent parfois l'intérieur des villes, comme à Chicago. En Irlande, celles-ci ont été installées devant le Parlement. Des enceintes diffusent l'ambiance sonore de Gaza.
People got the power. Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it?
après la reconnaissance de l'État palestinien, la foule réclame l'adoption de sanctions contre Israël. Selon le RISI, réseau insurrectionnel de solidarité internationaliste, qui écrit sur Paris Lutte Info, l'évolution du mouvement solidaire pour la Palestine reflète le basculement dans une autre phase.
En France comme ailleurs, trop de personnes ont cru en la possibilité de faire pression sur les gouvernements ou les instances judiciaires pour mettre fin au génocide. Le retour des manifestations sauvages est une réaction à cette impuissance ressentie, une affirmation que seule une action directe et déterminée peut réellement faire bouger les lignes. Confrontée à la réalité du génocide qui continue de se dérouler sous nos yeux de façon toujours plus cauchemardesque, la seule conclusion logique est d'intensifier et de radicaliser nos actions.
Première idée, passer de l'occupation des espaces extérieurs à l'occupation des locaux. Aux États-Unis, une expérience a marqué l'irruption de ce nouveau besoin, illustré par le milieu anti-autoritaire. À Chicago, l'Institut politique est occupé le 17 mai et rebaptisé la Casbah Bazel à l'arrache, du nom d'un militant et journaliste palestinien tué en 2017 par l'armée israélienne qui a notamment déclaré « Si vous ne voulez pas vous engager, si vous ne souhaitez pas confronter l'oppression, votre rôle en tant qu'intellectuel est sans intérêt ». Les occupants et occupantes postent une banderole faisant état de leurs revendications. Libérer la Palestine, abolir l'université, rendre les terres et niquer la gentrification. L'objectif, affirmer le fait que la libération de la Palestine n'ira pas sans le déferlement d'un mouvement global et permanent contre le suprémacisme blanc et le colonialisme. L'occupation ne dure qu'une journée. La police arrive très vite sur les lieux. Peu à peu, les occupantes et occupants se retranchent toujours plus haut dans le bâtiment face aux assauts répétés et finissent par sortir par le toit et par descendre à l'aide de cordes dans la foule qui s'était réunie en soutien. Par la suite, des dizaines de tentes apparaissent tout autour du bâtiment et des actions spontanées se multiplient jusqu'à la nuit. Il n'y a pas d'arrestation. La séquence fait figure de dépassement du cadre des camps, à la fois pour intensifier la lutte et pour qu'elle se perpétue au-delà de la fermeture des facs pour l'été. Le site d'info It's Going Down analyse.
Alors que chaque jour voit plus de morts gazaouis, les manifestations symboliques sont clairement une réponse insuffisante. Il est crucial de chercher d'autres formes d'action collective pour démontrer la nécessité d'abolir les États coloniaux. Avec la Casbah de Bazel al-Arash, la possibilité d'action autonome et d'escalade militante n'était pas juste théorique. Étudiants et non-étudiantes ont rejoint l'occupation et construit des barricades, couvert les gens qui s'évadaient du bâtiment, inventé et rejoint d'autres actions spontanées et inattendues tout au long de la journée. Ce que nous apprenons en perturbant les universités nous prépare à intensifier et à approfondir nos actions pour libérer la Palestine. Les écoles vont fermer pour l'été, mais la lutte continue.
À Oxford, au Royaume-Uni, quelque chose de similaire lance la vague d'occupation des locaux. La police s'est ainsi retrouvée bloquée dans un bâtiment encerclé de protestataires alors qu'elle tentait de déloger les personnes qui commençaient à installer des barricades dans les bâtiments administratifs. La foule venue en soutien tient ses positions durant des heures, empêchant les forces de l'ordre de sortir, qui sont devenues malgré elle actrices de l'occupation qu'elle tentait d'empêcher. Alors que l'ensemble du Royaume-Uni compte plus de 30 campements, les occupations se multiplient, comme ici à Leeds. À Manchester, c'est le Wiswas Hall, bâtiment historique de l'université, qui est envahi et barricadé par des dizaines d'étudiants et d'étudiantes le week-end du 26 mai pour faire monter la pression sur l'université. Il renommait le Walik Dakka Hall, du nom de l'écrivain palestinien et prisonnier politique durant 38 ans dans les geôles israéliennes, mort en détention le 7 avril dernier. À la veille du début des partiels, les étudiants et étudiantes exigent que l'université cesse son partenariat avec le fabricant d'armes BAE Systems et rompe ses échanges avec les universités israéliennes. Sue, porte-parole de l'orga Manchester Left Action, déclare
« L'université a provoqué cela. Nous l'avons prévenu. Que faute d'ouvrir une discussion, il y aurait une escalade de nos actions. La direction a fait le choix de ne pas ouvrir de négociations et en cela, elle ne nous a pas considérés. Nous avons une grande quantité de vivres et d'eau, donc l'occupation va se poursuivre dans le futur. Cela signifie que les examens seront perturbés pour une durée significative. »
Sur la façade du bâtiment emblématique daté du 19e siècle, flotte désormais une immense bannière aux couleurs de la Palestine. Lundi 27 à 19h, la police tente de déloger les occupants et les occupantes, mais les centaines de personnes réunies à l'intérieur font masse devant les portes et parviennent à empêcher l'expulsion. Deux étudiants dénoncent dans la foulée.
La police a prouvé une fois de plus qu'elle est un outil oppressif et violent de l'État qui tente de nous silencier et d'étendre son soutien sans fin à Israël. Nous voyons son action pour ce qu'elle est, défendre le droit d'un État à commettre un génocide. Nous refusons de laisser notre université continuer sur cette voie. Elle doit divulguer, désinvestir, démilitariser.
À Édimbourg, en Écosse, l'université est le premier employeur et propriétaire terrien de la ville. Elle a en outre investi 55 millions de livres dans des entreprises engagées dans l'économie d'apartheid israélienne. Le camp, qui tient désormais depuis plusieurs semaines, a décidé de s'agrandir et d'accueillir des travailleuses qui souhaitent rejoindre la grève en soutien à la Palestine. Chi, étudiant, déclare au Socialist Worker.
Quand les Palestiniens luttent, ils affaiblissent nos ennemis de classe. Quand nous luttons, nous affaiblissons leurs ennemis de classe. La racine de tout cela, c'est le capitalisme. Peu importe la nation à laquelle nous appartenons, notre lutte est la même et les étudiants et les travailleuses ont intérêt à s'unir.
En Californie, la section universitaire du syndicat UAW a voté à 80% pour la grève pour protester contre l'irruption de la police sur les campus. Commencée le 20 mai à Santa Cruz, la grève s'étend le 29 à Sacramento et Los Angeles. Pas d'école tant qu'un génocide est en cours, pose la déclaration de l'Université populaire pour la libération de la Palestine. Nous encourageons tout le monde à manquer les cours et à venir montrer son soutien aux travailleuses tant que la grève perdure. Le personnel universitaire exige notamment l'amnistie des militants et militantes arrêtés par la police ou inquiétés par l'université pour s'être solidarisé avec le peuple palestinien. Le 11 juin, la grève cesse néanmoins, après que la justice ait considéré qu'elle était illégale puisqu'elle n'était pas liée aux conditions de travail. Or, tandis que le syndicat UAW assure que d'autres actions se tiendront, le personnel de l'université de Davis organise une marche avec le PULP, l'université populaire pour la libération de la Palestine. En pleine semaine de partiel, les routes sont barricadées et la circulation entravée. Au-delà des facs, l'enjeu est de développer des actions dans les entreprises qui s'engagent dans l'économie israélienne, en particulier dans l'armement. En premier lieu, des actions de blocage se sont tenues dans les usines par des éléments extérieurs à l'entreprise. Parfois, des centaines de personnes se réunissent devant la BAE Systems Factory à Rochester, Bournemouth ou Brighton. Éventuellement, des liens se créent avec les salariés, à l'image de ce qui se déroule dans l'usine de fabrication d'équipements militaires aériens de Glasgow. Dans un article anonyme publié sur Labornotes, un salarié raconte comment peu à peu une alliance s'est constituée. Après plusieurs semaines et quelques échecs, les piquets communs de militantes et salariés sont devenus assez puissants pour forcer la direction de l'usine à fermer pour la journée et à renvoyer les salariés avec leur paye. Régulièrement, les envois de production sont empêchés et certains salariés s'engagent même profondément dans la lutte pro-palestinienne et se battent au niveau sectoriel et syndical pour interdire l'exportation de leur production en Israël. À travers le monde, de nombreux syndicats se positionnent pour demander à leurs membres d'empêcher le transport d'armes. C'est le cas de plusieurs fédérations en Belgique, dans les secteurs maritimes et aériens, à Gênes ou Salerme en Italie, où des navires ont été paralysés par des mobilisations ouvrières. En Catalogne, le mouvement Stop Arming Israel est particulièrement puissant. C'est ainsi qu'à Barcelone, les employés du port refusent de transporter les armes qui s'abattent sur Gaza. Les entreprises travaillant au port d'armes ou de produits chimiques ont été régulièrement perturbées, comme Airbus à Retafé ou l'Israel Chemical Limited Iberia, qui fabrique le phosphore blanc que Tsahal utilise en violation des lois internationales à l'aide de Bayer Monsanto. Au Canada, enfin, des communautés indigènes alliées aux délégués syndicaux font régulièrement fermer 4 usines qui vendent des armes aux tyrans de Tel Aviv, notamment celle de Geospectrum à Dartmouth. À noter également l'irruption aux premières heures du mardi 28 mai d'un groupe d'activistes de Palestine Action Scotland pour saboter l'alimentation internet de l'entreprise Leonardo et repeindre de rouge la façade et les statues d'avions de chasse qui en décorent l'entrée. We won't forget the mandom, we won't forget the children, can't resurrect them, can't forget that we got censored. And for those who didn't speak out, trust me, we remember. We won't forget the violence or the tyrants who want to dehumanize us. These times are unprecedented. First we wanted peace, now we want vengeance. A million refugees looking for shelter. I can't believe they put their hands out, we didn't help them. Can't drink the poison. Don't forget Starbucks funded the oppression. The list goes on, the boycott's coming. The boycott feelings and his anger are summoned. Can you feel the tension burning in your stomach? Allah by my side won't surrender to nothing. And we won't forget nothing. Au-delà de ce qui se joue à l'instant présent, un nombre croissant d'actrices du mouvement solidaire international installe l'idée qu'il faut dépasser le propre cadre de la lutte pour la Palestine pour venir nourrir puissamment le mouvement décolonial international. Le RISI poursuit.
En comprenant cette interconnexion, nous reconnaissons que chaque acte de résistance contre les symboles du colonialisme et du capitalisme en France résonne au-delà de ses frontières, affectant également les structures du pouvoir en Kanaky et en Israël. La lutte devient alors non seulement locale, mais internationale, soulignant la solidarité entre les mouvements de libération à travers le monde. En amplifiant ces actions, nous envoyons un message fort contre l'oppression systémique, démontrant que le combat contre le colonialisme et le capitalisme est un combat global. Il est essentiel de reconnaître que l'efficacité d'une action collective dépend de notre capacité à nous organiser en amont. Au lieu d'attendre un hypothétique mouvement de masse, nous pouvons d'ores et déjà nous regrouper en groupes affinitaires, partager nos idées et décider des actions à entreprendre. Cela implique de se réunir régulièrement, d'échanger nos connaissances et nos compétences et de planifier stratégiquement nos initiatives.
Lutter contre le colonialisme est en effet un acte à la fois global, local et quotidien. Pour Aimé Césaire comme pour Hannah Arendt, les racines du fascisme se trouvent dans le colonialisme. La philosophe allemande voit même les régimes coloniaux comme le prototype du totalitarisme, allant même jusqu'à écrire que la pensée coloniale est le berceau d'une mentalité qui a culminé avec l'Holocauste. Dirk Moses, dans la préface à « Empire, Colony, Genocide, Conquest, Occupation and Subaltern Resistance in World History » reprend cette notion. Pour lui, le génocide en tant que tel est intrinsèquement colonial et précède largement le XXe siècle. L'Allemagne, bien avant 1933, a en effet déjà perpétré un génocide. Entre 1904 et 1908, c'est dans sa colonie de l'actuelle Namibie que deux peuples ont été presque exterminés par l'Empire allemand. 80% du peuple Herero et 50% du peuple Nama sont alors décimés. 80% du peuple Herero et 50% du peuple Nama sont décimés. On y retrouve un ordre d'extermination sans distinction délivré par un général de l'armée, la mise en place de camps de concentration, la tuerie par le travail forcé, la malnutrition, la torture et les mauvais traitements, ainsi que des expériences sur des crânes humains à des fins de recherches scientifiques raciales. Pour achever sa domination, l'Empire allemand déporte nombre de survivants et survivantes du peuple Nama au Cameroun, pour éviter qu'une rébellion ne perdure. Dans ce cas précis, si le génocide est profondément marqué par le suprémacisme et la volonté d'établir scientifiquement la supériorité des peuples blancs sur les peuples non blancs, il répond avant tout à un besoin colonial. De tout temps, le colon estime que les terres qu'il conquiert lui revient, souvent de droit divin ou par ce qu'il nomme la destinée manifeste. Les terres sont considérées comme vierges, désertes, même si elles sont peuplées de millions d'habitantes et d'habitants. En réalité, le colon désertifie ses terres en supprimant ce qui le gêne. Autres populations humaines, animaux prédateurs, écosystèmes difficiles à gérer. Enfin, phénomènes naturels. Il façonne une terre à son image et légitime l'accaparement des terres en les rendant libres et disponibles dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, en Namibie, les grandes propriétés sont encore majoritairement aux mains des fermiers blancs. Revenons à Gaza. En 1948, pour justifier la création de l'État d'Israël, le mythe raconte que la terre de Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Margara Milan, anthropologue et sociologue mexicaine déjà citée, explique.
L'invasion a commencé avant 1948. Aujourd'hui, nous savons qu'à l'origine de l'État d'Israël, il y avait un projet de partager le territoire avec la population locale. Ce projet fut détruit par l'initiative unilatérale de fonder un État théocratique qui s'est mis à expulser la population arabe. On nous a fait croire que la terre de Palestine était vide. Aujourd'hui, nous savons que la Nakba fait référence à la catastrophe durant laquelle 700 000 Palestiniens et Palestiniennes furent dépossédés de leurs maisons et de leurs terres et déplacés par la force. L'invasion, c'est-à-dire l'occupation de la Palestine par Israël, n'a pas cessé depuis lors.
À bien des égards, l'État israélien reproduit avec la population palestinienne le mode opératoire des processus coloniaux génocidaires. Ne pas respecter les traités, repousser toujours plus loin les populations, déshumaniser les personnes colonisées, considérer toute forme de résistance comme une déclaration de guerre, etc. Henning Melber, enseignant-chercheur à Londres et Pretoria, écrit dans Afrique 21
« Le génocide des habitants de Gaza présente des analogies avec le premier génocide du XXe siècle, dans la colonie allemande du sud-ouest africain. À cette époque, les Hereros s'étaient retirés dans la savane de l'Omaïque, qui avait été bouclée et isolée par les Allemands. Après la déclaration de l'ordre d'extermination, ceux qui cherchaient refuge ont été abattus ou repoussés vers l'Omaïque, où ils sont morts de soif et de faim. »
Depuis le mois de novembre, la Namibie soutient son voisin sud-africain dans les démarches de dénonciation des crimes de guerre à Gaza, quand l'Allemagne soutient l'offensive israélienne. Depuis la Namibie, on accuse l'Allemagne d'amnésie coloniale, de justifier son soutien au génocide gazaoui par la culpabilité d'avoir perpétré la Shoah, tout en oubliant l'autre génocide commis en Afrique. Et donc, de perpétuer le suprémacisme blanc en minimisant la gravité des génocides commis en 1904 sur des populations africaines ou actuellement sur une population arabe. Cet hiver, le président de la Namibie déclarait
« Le gouvernement allemand doit encore expier le génocide qu'il a commis sur le sol namibien. L'Allemagne ne peut pas moralement exprimer son engagement envers la Convention des Nations Unies contre le génocide tout en soutenant un génocide à Gaza. » This is for Palestine and Quds, the capital Jerusalem. Unarmed people marching to the wall and they're shooting them. Suppression is a question, resistance is the answer. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine and Quds, the capital Jerusalem. Unarmed people marching to the wall and they're shooting them. Suppression is a question, resistance is the answer. Long live Palestine, long live Gaza. All you see is war every time you turn your head and
Alors, puisque voilà la question fondamentale, en quoi le génocide à Gaza répond à un besoin colonial ? Début mai, le cabinet de Netanyahou dévoile un projet de recolonisation intitulé Gaza 2035, qui vise à transformer l'enclave en une zone d'investissement cooptée par les régimes réactionnaires arabes, Arabie Saoudite en tête. Le projet passe par une première phase de gouvernement direct du territoire gazaoui par Israël. Si la frange la plus suprémaciste du gouvernement Netanyahou souhaite installer une dictature militaire à Gaza, le projet Gaza 2035 propose une gouvernance israélienne sous la supervision d'une demi-douzaine de pays voisins et de Palestiniens non affiliés au Hamas ou au Fatah. Après 5 à 10 ans, l'autorité palestinienne retrouverait une certaine gouvernance de la zone, à l'exception des questions régaliennes laissées au gouvernement d'Israël. L'idée à terme, relier la ville égyptienne d'Al-Arish au sud et celle de Sderot au nord qui se trouve sur territoire israélien par des chemins de fer à grande vitesse. Y implanter des industries de pointe dans le domaine des hautes technologies et de l'automobile électrique ainsi que des plateformes pétrolières au large de Gaza. Selon l'ONU, il y aurait en effet 1,7 milliard de barils de pétrole au large de la bande de Gaza et 1,5 milliard en Cisjordanie. Yasmine El-Hassan, avocate palestinienne, commente dans Atmos.
Il est manifeste que la complicité internationale avec le génocide en cours à Gaza est intrinsèquement liée aux intérêts capitalistes des puissances internationales et des multinationales pour qui les gains financiers sont plus importants que les vies palestiniennes et la préservation de l'environnement.
Dès le 29 octobre, soit 4 semaines seulement après le début de l'offensive, le gouvernement israélien délivrait 12 licences d'exploitation offshore de pétrole et de gaz à 6 compagnies différentes. Sherin Talat, fondatrice et directrice du mouvement pour la justice économique et écologique qui étudie la crise climatique au Moyen-Orient sous le prisme féministe, résume.
Ce génocide n'a rien à voir avec le droit d'Israël à se défendre. Ce génocide est lié au pétrole. Gaza flotte sur du pétrole et il a toujours été question de pétrole. Il ne s'agit que d'évacuer de Gaza les habitants de Gaza.
Comme le dit Bethlehem Aboub sur Desinfol Memonos, la Palestine est une résistance pour le simple fait d'exister. Le peuple palestinien ne sera pas exterminé parce que malgré la douleur, il continue d'exister. C'est pourquoi le mouvement solidaire international pour la Palestine ne s'éteindra pas. C'est pourquoi l'on entendra encore longtemps chanter « Palestine vivra ». Le mouvement solidaire international ne s'arrêtera pas parce qu'il est le mouvement anticolonial et décolonial dont le monde accouche ces dernières décennies. Il met à jour une nouvelle perception des oppressions systémiques et répand la notion d'intersectionnalité. Nous comprenons qu'agir ici contre le fascisme est un acte précieux pour abattre l'Empire et qu'à force de le secouer, il tombera. Bayan Sen, chercheur climatique à l'Institute for Policy Studies de Washington, ajoute
« L'occupation israélienne est issue du même processus colonial qui nous a apporté la crise climatique. Comme dans les précédentes formes de colonialisme, cette guerre et les massacres de masse vont glisser sur des générations entières. L'histoire ne va pas oublier ceux qui ont soutenu les tueries. Les peuples ne vont pas pardonner ceux qui sont guidés par leur addiction au profit et aux énergies fossiles. »
Et c'est aussi ce que disent les féministes iraniennes exilées, dont l'appel est relayé sur CrimeThink.
Toutes les luttes pour la liberté et la dignité sont fondamentalement interconnectées. Il est important d'éviter l'erreur qui consiste à croire qu'on peut soutenir des personnes oppressées quelque part en soutenant des oppresseurs ailleurs. Parce que dans ce cas, on en vient à croire qu'il existe un camp du bien et un camp du mal. Et finalement, à penser que quiconque s'oppose au mal tombe forcément dans le camp du bien. Au Or, pour nous, défendre les causes palestiniennes et la solidarité internationale ne peut être différenciée de l'opposition de la République islamique iranienne parce que l'État iranien s'en prend aux peuples de toute la région et s'attaque à toute personne qui pense que la libération des peuples dépend des peuples mêmes et non des États. D'Israël à l'Iran, combattons les tyrans. Ibrahim Abu Thoreya could resist without a wheelchair. 10-year challenge, tell Rick if we are still here. And tell that killer Netanyahu he should feel fear. The old live through us and guarantee the children will.
C'était le dernier épisode de notre saison 4. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette année riche en luttes. Au doublage, c'était Oriane et Maxime. En musique, vous avez entendu Palestine Will Never Die de Loki, Free Palestine Song, We Won't Forget de Carter Zaher, Jay Dean et Shadi Haki, et Long Live Palestine de Loki, Frankie Boyle et Maverick Sabre. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'audioblog de l'Actu des Oubliés, ainsi que le classement thématique et cartographique sur le site de la compagnie des Embrayés. On se retrouve fin septembre pour une cinquième saison. D'ici là, prenez soin de vous.